Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Blablapod. Je ne vous ai pas oublié, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode. Oui, parce que malgré ma pause d'un an et demi à deux ans, je viens de vérifier, j'ai quand même pas oublié qu'à la base, c'est supposé être une émission hebdomadaire. Mais bon, le fait est que les conditions sanitaires actuelles font qu'on se déplace moins et vous savez. C'est une émission que j'enregistre en général sur mon vélo, même si là je suis à pied, c'est comme ça, c'est pareil, on fait avec. Aujourd'hui je voulais parler d'immigration, parce que je suis encore allé chez le médecin, mais cette fois c'est pour une bonne nouvelle, mon dossier d'immigration. Enfin, j'en avais déjà parlé, en tout cas c'est une histoire à rallonge. Ah, excusez, on va dire qu'il faut que je prenne un... Bon... excuse, c'était un appel que je devais prendre. Je trouvais un portefeuille qui appartenait à quelqu'un. En fait, il a fallu faut synchroniser pour rendre à cette personne son portefeuille. C'est que donc j'ai passé une visite médicale, mais c'est pour la bonne cause, le dossier d'immigration, ça j'ai déjà dit. La visite médicale, là, c'est ça consiste en une radio des poumons, une analyse d'urine, une analyse de sang, un contrôle de la vue, une visite de base là, avec le médecin. Puis ça dure en temps utile, je dirais que ça dure une vingtaine de minutes, mais au final on doit attendre beaucoup entre chaque étape, donc ça un peu plus de 2 heures. Et je suis content de l'avoir passé parce que c'est vraiment l'étape finale pour ma résidence permanente. Et ça c'est cool parce que comme vous l'imaginez, la plupart des services administratifs tournent au ralenti en ces temps un peu particuliers. Et donc ça fait plaisir de voir qu'il y a du mouvement au ministère de l'immigration. La façon dont ça fonctionne, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs qui se posent des questions, ils disent mais alors ça fait longtemps que vous êtes dans un centre pour les résidents permanents, etc. Mais la façon que ça fonctionne, il y a toujours des changements, mais essentiellement pour immigrer au Québec, on doit d'abord passer par le Québec. Je l'ai déjà dit dans mes podcasts comme dans ceux des autres, le Canada, c'est un peu une coquille vide administrativement. Pas 100% vrai là, mais. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de prérogatives par rapport à un pays traditionnel. Et l'immigration, ça fait partie des prérogatives du Canada, mais sauf pour le Québec. Donc pour le Québec, on passe d'abord par le Québec, on envoie son dossier. Si le Québec nous sélectionne, là il nous délivre un document qui s'appelle le certificat de sélection du Québec, le CSQ. Il y a plusieurs façons, plusieurs voies différentes de l'obtenir, mais à la fin, c'est ça pareil qu'on obtient. Pour ça, il faut passer à travers des quotas ou pas, ça dépend des cas, mais je vais en parler un petit peu après. Une fois qu'on a notre CSQ, on envoie notre dossier au fédéral, parce que, tu sais, ça se peut pas que les administrations se parlent, hein. Surtout quand elles sont des champs de compétences un peu concurrents. Donc non, le ministère de l'immigration du Québec n'envoie pas votre dossier d'immigration au ministère de l'immigration du Canada. C'est à vous de le faire. Vous envoyez votre dossier, vous envoyez votre CSQ, qui est une date d'expiration, by the way. Et une fois qu'on est rendu là, le fédéral examine votre dossier, mais dans le fond, ce qu'il regarde juste, c'est est-ce que votre CSQ est légitime. Est-ce que vous avez un casier judiciaire dans les différents pays où vous avez résidé dans le passé et au Canada? Et est-ce que vous êtes en bonne santé? Ça ne veut pas dire que si vous êtes en mauvaise santé, on ne vous prend pas. Je ne connais pas exactement le barème, la façon dont ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'on perd des points là. Mais c'est pas parce qu'on a quelque chose qu'on n'est pas éligible pour autant. Bref. Donc c'est ça, la visite médicale c'est la dernière étape. Et tel que je vous décris un peu le processus, vous penseriez que c'est un processus relativement rapide du côté du fédéral. Et de fait, ça l'a souvent été, 1 mois, 2 mois, 3 mois d'attente, pas beaucoup plus. Mais dernièrement, et depuis plusieurs années, ça met plusieurs années, justement, à être traité. Ce petit bout de dossier, là, dernières étapes à passer, si je n'ai pas vraiment d'explication à ce pourquoi on attend autant. La seule chose que moi j'ai pu constater, c'est que c'est depuis que le fédéral a mis en place un peu l'équivalent de ce qui existe avec le Québec, mais avec les autres provinces. Ça s'appelle rentrer avec les autres provinces. C'est un parcours accéléré où on est sélectionné par la province et ensuite le fédéral traite le dossier le plus vite possible. Ça va plus vite parce que, évidemment, dire qu'il y a beaucoup plus de fonctionnaires dans le pays qui traitent les dossiers, puisque chaque province traite les dossiers et ensuite laisse au fédéral la partie la plus facile, c'est vraiment dans le travail. Alors pourquoi est-ce que ça ralentirait les dossiers du Québec? Bon, d'abord mécaniquement, il n'y a plus de dossiers à traiter, même si c'est juste la partie facile qui reste. Ça n'explique pas qu'en plus de toutes les autres provinces sont quand même plus rapides pour les immigrants à obtenir leur entrée express. Et moi, c'est sûr que j'ai tendance à penser qu'il y a un petit peu de mauvaise volonté vis-à-vis de la province du Québec qui elle-même met beaucoup de mauvaise volonté à appliquer différents requis de l'immigration canadienne. Mais dernièrement, j'ai lu une série d'articles que je interprétait mal sur le fait que le Québec a réduit les quotas. Alors les quotas, on va en parler. La province du Québec délivre 55 000 par année. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on délivre toujours plus. Parce qu'en réalité, les quotas, c'est des nombres de dossiers, c'est pas des nombres de personnes. Donc, si vous faites un dossier conjoint avec votre partenaire, les enfants, évidemment, ça fait 2, 3, 4, 6, 8 pour un dossier, une place dans le dossier. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les quotas s'entendent pour les dossiers qui sont déposés à l'extérieur de la province du Québec. Donc, les gens qui sont déjà au Québec travaillent avec un type de séjour temporaire. Eux, ils ne découvrent pas de place dans les quotas quand ils déposent leur dossier de CSQ. En tout cas, c'est ma compréhension, c'est comme ça que c'est expliqué sur le site du ministère de l'Immigration, la Diversité et l'Inclusion, le midi du Québec. Et oui, au Québec, nous aussi, on a le midi. Et voilà. Mais les articles que j'ai lus dernièrement disent que si on attend, si les néo-québécois, quasiment, la résidence permanente ne permettrait pas par exemple la citoyenneté, pour ceux qui le désirent, donc si les néo-québécois attendent plus longtemps la part du général, ça serait parce que récemment, en 2019, le Québec a réduit ses objectifs d'immigration de 30%, en tout cas on a 40 000 et quelques places annuelles, et que par conséquent, donc il y a moins de places, et donc le fédéral ne peut pas s'intervenir, s'arrête de les compter. Et alors là, moi j'ai un problème avec ça, parce que j'ai jamais entendu parler que le fédéral appliquait les quotas du Québec, d'abord, et d'autre part, je vois pas de texte qui l'expliquerait, parce que bon, on fonctionne en tant que démocratie avec des lois, des accords, des traités d'application et des règlements qui sont publics et qui, parfois, quand ils ne le sont pas, peuvent être rendus publics. On a une loi qui s'appelle la loi d'accès à l'information. Donc, demander la publication de certains éléments qu'on juge importants, ça va être des accords entre différentes administrations qui ne sont pas techniquement des lois ou des règlements. Bref, moi je trouve aucun texte qui explique que le fédéral suivrait les quotas du Québec, et de toute façon, techniquement, puisque les deux provinces ne communiquent pas, puisque les immigrants envoient leurs dossiers de façon séparée au fédéral et au provincial. Je ne vois pas vraiment comment est-ce que ça peut fonctionner. Comment le Canada pourrait savoir que les 2, 3, 4 dossiers de CSQ, les dossiers d'immigration avec des CSQ qu'il reçoit, ont des côtés qu'une seule place dans les quotas québécois. Alors évidemment, la plupart des gens font des demandes conjointes au Québec, font ensuite des demandes conjointes au fédéral, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors il peut y avoir des séparations, ensuite il peut y avoir des cas de figure différents, comme par exemple une famille où un des membres de la famille immigre plus tôt que les autres. Hein. Ça arrive souvent quand on a des enfants et qu'on souhaite qu'ils aient une scolarité normale. On va avoir une partie de la famille qui va partir plus tôt et une plus tard. Et ça peut parfois justifier, en tout cas quand les délais de traitement sont rapides, qu'à un moment elle se concorde, de faire des dossiers séparés. Mais surtout, il n'y a pas grand moyen, dossier qu'on envoie, de savoir si on était au Québec ou non avant d'obtenir notre CSQ. Et ça rend les choses un petit peu complexes. Il faut savoir qu'une fois qu'on a notre CSQ, même si on n'a pas notre résidence permanente, on peut travailler au Québec, même si on n'a pas de titre de séjour. C'est exactement comme si on avait la résidence permanente, c'est juste que le fédéral ne leur connaît pas. Mais au niveau du droit du travail, la sécurité sociale, toute la société à l'intérieur des frontières du Québec, c'est exactement comme si on était résident déjà. Et donc, il peut y avoir des cas de figure où le dossier est court, on ne sait pas si la personne a déposé sa place au Québec. Après, okay. Je trouve qu'il y a plein de cas de figure, c'est impossible pour le Canada de suivre ce cas, et je ne vois pas de texte qui dit que le Canada suit les États. J'ai bien relu l'accord 95 entre Québec et Canada. Le texte est très clair. Le Québec sélectionne ses immigrants, la totalité de ceux qui souhaitent s'installer au Québec, et le Canada leur délivre la résidence permanente à condition qu'ils satisfassent les conditions du fédéral. Et il n'y a pas de notion de quota du côté du fédéral. Il y a bien une notion de capacité de sélection, et donc potentiellement de quota du côté du provincial. Et donc voilà, pour moi c'est un mystère, et surtout je vois ces articles qui suggèrent que ça fonctionne comme ça, que depuis quelques mois, finalement, alors que le problème d'attente date bien avant l'accession au pouvoir du gouvernement de Legault, celui qui a réduit des quotas. C'est très étrange. J'ai donc contacté la journaliste qui a écrit un de ces articles-là dans un journal que je trouve à bonne réputation, il s'agit de voir, et on n'a pas répondu. On m'a dit qu'il semble y avoir un nouvel accord. Je vais continuer à investiguer. C'est une réponse assez courte, dans laquelle on conclut que s'il y a un nouvel accord, il n'est pas publié, c'est pas très normal. Et d'autre part, ces articles-là sont écrits qui suggèrent une façon de fonctionner des deux ministères, sont écrits sur la base d'une absence de connaissances. C'est-à-dire que la journaliste en question, et j'imagine que c'est le cas des autres, n'a pas vérifié que c'était possible qu'il y ait cette notion de quota. Mais d'où sort l'info? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et pour moi, je trouve ça vraiment incroyable de vivre dans une société démocratique, moderne, où l'information accessible, toujours facilement, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont journalistes de profession, et qu'on puisse avoir des articles qui décrivent des situations avec des hypothèses de cause sans vérifier que c'est possible que ces hypothèses de cause-là existent. Et ça me rend un petit peu circonspect sur l'état de la presse à notre époque. Et quand je dis à notre époque, ça ne veut pas dire qu'avant c'était mieux. Je n'en sais rien, j'étais pas là. Puis j'imagine assez bien que c'était pire. C'est juste que je pense qu'on mérite mieux. J'ai un autre exemple, et qui ne parle pas d'immigration, soumis par sujet, mais c'est un exemple de traitement médiatique d'information, pourtant librement accessible. Récemment, Met, pour Mountain Equipment Cooperative, comme son nom l'indique, est une coopérative à l'origine d'équipements d'alpinisme, mais maintenant d'équipements sportifs de plein air en général, a vendu ses actifs à un fonds d'investissement américain. Puis là, la façon dont l'information a été traitée, c'est que Met aurait été vendu à une compagnie américaine. Et évidemment, en tant qu'actionnaire moi-même, et même si Met avait effectivement s'était placé sous la protection des créanciers, en tant qu'actionnaire, on le saurait si l'entreprise était vendue. L'entreprise n'a pas été vendue. L'entreprise a vendu la totalité de ses actifs à un fonds d'investissement. Et puis, un peu plus tard, elle va devoir demander à ses actionnaires quoi faire en proposant, j'imagine, de dissoudre la coopérative. Parce que de toute façon, maintenant, c'est une coquille vide, elle n'a plus le choix. Mais c'est pas la même chose. Et il y a un autre aspect qui n'a pas été traité dans les articles qui ont relayé l'information, c'est aussi que les élections au conseil d'administration de Met ont eu lieu, j'ai voté, mais n'ont jamais été. Les résultats n'ont jamais été promulgués, n'ont jamais été dévoilés ni mis en exécution à cause de la pandémie. Et de l'arrêt à ce moment-là, en mars, une partie de l'activité économique, sociale et administrative du pays. Et fondamentalement, ça pose problème donc que le conseil d'administration, qui est l'ancien, peut-être le même que le nouveau, mais on ne le sait pas, prenne des décisions aussi drastiques sans demander l'avis des actionnaires et en vendant des actifs plutôt que justement de proposer de vendre l'entreprise et donc de passer par le processus normal et de demander aux actionnaires leur approbation. Et tout ça, ça n'a jamais été vraiment traité avec un article que j'ai pu lire. Et à la limite, que ça ne soit pas traité, c'est une chose. Mais qu'on dise que l'entreprise a été vendue alors que l'entreprise n'est pas vendue, pour moi, on est vraiment dans le même cas de figure là, que ce que je comptais avec l'administration et l'immigration. Et je trouve ça inquiétant. Je pense que ça participe du fait que les gens ont une connaissance assez médiocre de la façon dont fonctionne l'économie, l'administration, le système politique. Dernière anecdote, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais il est énorme. Un grand pourcentage de Canadiens pense que lorsqu'ils votent aux élections législatives, ils votent pour le Premier ministre, alors qu'ils votent pour leur député. In fine, peut-être leur député va voter pour le Premier ministre qui se présentait. Peut-être pas. Et voilà, c'est un tout. C'est quelque chose qui me chagrine beaucoup et que je voulais aborder avec vous dans ce nouvel épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. N'importe où.